إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, le deuxième précepte mentionné par l'auteur, rahimahullah ta'ala, dans cet épître, qui concerne la division en religion. Il a dit, rahimahullah, المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب. Donc le deuxième précepte, parmi les préceptes pré-islamiques, les préceptes de la Jahiliya, que l'islam a aboli, il y a le fait que les gens de la Jahiliya étaient divisés dans leur religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, chaque parti se réjouissant de ce qu'il détenait. Et il en était de même dans leurs affaires mondaines, et ils considéraient cela comme étant ce qu'il y a de correct. Telle était la situation des gens de la Jahiliya, de la période pré-islamique. Ils étaient divisés dans leur religion et divisés dans leurs affaires mondaines. Que ce soit les juifs ou les chrétiens, ou les idolâtres, ou autres parmi les gens des différentes religions de la Jahiliya. En ce qui concerne leur division dans la religion, il y en avait parmi eux qui adoraient le soleil, d'autres adoraient la lune, d'autres adoraient les statues, d'autres adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes, et ainsi de suite, parmi les différentes choses qu'ils adoraient. Chaque groupe avait une religion différente de la religion de l'autre groupe, et chaque groupe taxait de mécréance les autres groupes, et ils se taxaient mutuellement de mécréance, même au sein d'un même groupe. Et ce, car chacun d'entre eux prétendait détenir la vérité, et que les autres étaient sur le faux. Ils se réjouissaient de cette situation. Ils se réjouissaient de cette division. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, « كل حزب بما لديهم فرحون » Chaque parti se réjouissant de ce qu'il détenait. Et ceci en réalité, si tu médites, c'est une sanction et un châtiment. C'est une grande épreuve pour la personne d'être sur le faux et qu'elle se réjouisse d'être sur le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de leur ressembler. Il a dit dans son noble livre, « وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Et ne soyez pas du nombre des polythéistes. « مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » Et ne soyez pas du nombre des polythéistes parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti se réjouissant de ce qu'ils détenaient. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce verset, selon le sens rapproché et résumé de sa parole, « Ceci est une mise en garde pour les musulmans contre le fait de se diviser et de se séparer en groupes, chaque groupe se fanatisant pour ce qu'il a avec lui comme vérité et comme faux. Ils seront alors, s'ils font cela, qu'ils se divisent en groupes, ils seront alors semblables en cela aux polythéistes en termes de division. » Donc, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cette division. Et ce qui est visé par la division ici, c'est la division dans la croyance. La division sur les bases fondamentales de notre religion. Il n'est pas permis pour les musulmans de diverger au sujet de leur croyance. Et la divergence et la division en religion, cela fait partie des préceptes des gens de la Jahiliya que l'islam est venu interdire et abolir. Comme l'auteur rahimahullah ta'ala dit ensuite, فَأَتَى بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il est donc venu avec l'union sur la religion. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu s'opposer aux gens de la Jahiliya au sujet de leur division. Et il est venu avec l'union sur la religion. et ce par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la traduction des sens rapprochés, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ceci est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour les musulmans. Le fait d'établir la religion, cette religion qui est unique, cette religion qui est la religion de l'ensemble des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et il enjoint cela à l'ensemble des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Et ici, il n'en a mentionné que 5, qui sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed, et ce car ce sont les meilleurs des prophètes, alayhimu salatu wassalam. Donc cette religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'établir à l'ensemble de ses prophètes, c'est le fait de lui vouer un culte exclusif, d'adorer Allah seul en ne lui donnant aucun associé. Et cette religion, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ensemble des créatures. Comme on l'a vu hier, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Ceci est donc une obligation pour l'ensemble des créatures, que leur religion soit unique. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'il a enjoint à l'ensemble des messagers avant lui, alayhi salatu wa sallam. Il nous a interdit la division. Et le fait qu'il nous interdise la division, cela implique nécessairement qu'il nous a ordonné également l'union et la cohésion en religion. Le fait d'être unis en religion, cela fait partie des fondements les plus importants avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya. Et l'islam, de manière générale, a accordé une grande importance à ce fondement. Et parmi les choses qui te démontrent l'importance de ce fondement, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré de nombreuses choses afin de préserver l'union des musulmans et de renforcer l'union des musulmans. Parmi ces choses, par exemple, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré différentes prières, comme les prières des deux fêtes, les prières du vendredi, et les 5 prières en commun dans les mosquées, afin que les musulmans se réunissent, que leur union se consolide, qu'ils se connaissent les uns les autres, et qu'ils forment un seul et même groupe. Également, il y a la zakat. Cette zakat qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée aux riches et qui est redistribuée aux pauvres. Et lorsque le riche dépense de ses biens pour le pauvre, ceci est une cause pour qu'ils soient unis et pour qu'ils s'aiment mutuellement. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le jeûne du mois de Ramadan. Ce mois durant lequel les musulmans du monde entier pratiquent tous cette même adoration. Ils jeûnent la journée et ils se réunissent les nuits dans les mosquées afin d'accomplir la prière de nuit, Salat al-Tarawih. Et ceci renforce l'union des musulmans. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le rassemblement des gens pour le pèlerinage en un seul et même lieu, en une seule et même période, tous vêtus d'un seul et même vêtement. Et avant tout cela, il y a cette parole immense, celle dont la prononciation fait entrer la personne en islam. Celle dont la prononciation, le fait de croire en ce qu'elle implique et de mettre en pratique ce qu'elle exige, est la cause d'entrer au paradis. Et c'est l'attestation de foi. Lorsque tu dis « Ash'hadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulallah » J'atteste que nul Dieu n'est en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'ensemble des musulmans prononcent cette parole. Ils sont tous unis sur cette seule et même parole qui est la base de leur religion. Et il y a d'autres nombreuses choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré afin de préserver cette union et de préserver la fraternité qu'il y a entre les musulmans. On voit donc que l'union sur la religion et le fait de ne pas se diviser dans celle-ci, cela fait partie des préceptes importants de notre religion. On peut même dire que cela fait partie des préceptes fondamentaux de notre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes très sévèrement interdit aux musulmans de se diviser dans la religion. Comme il l'a dit dans le deuxième verset qu'a mentionné l'auteur. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Ce verset, c'est une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il menace ceux qui émiettent leur religion, ceux qui se divisent en sectes dans leur religion, ceux qui prennent une partie de la religion et en délaissent une autre partie, qui est peut-être plus importante et plus méritoire que celle qu'ils ont choisie. Comme est la situation des gens de la division parmi les gens de l'innovation et de l'égarement qui ont divisé la communauté des musulmans. Donc ce verset nous prouve que notre religion, elle nous ordonne l'union et la cohésion. Et elle nous interdit la division et la divergence. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe même dans celui-ci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ceux qui émiettent sa religion et se divisent en sectes dans celle-ci. Il dit « Lesta minhum fi shay », tu n'es responsable en rien au sujet de cela. C'est-à-dire que tu es innocent d'eux et ils sont innocents de toi. Et ce, car ils se sont opposés à ton message et se sont obstinés dans le faux et la division. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wanahana an mushabahatihim » et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a interdit de leur ressembler, c'est-à-dire de ressembler aux gens de la jahiliya dans le fait de se diviser en religion. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'épreuve leur fut venue. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de ressembler aux gens de la jahiliya, ceux qui se sont divisés dans leur religion et ont divergé. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne se sont pas divisés et n'ont pas divergé de par ignorance, mais ils ont divergé par suivi des passions. En effet, voyez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat » après que l'épreuve leur fut venue. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé l'épreuve et ont suivi leur passion. Wallah al-musta'an. Donc, ce qui les a poussés à la division, c'est le suivi des passions. Et telle est la situation des adeptes de la division aujourd'hui. Ils s'opposent au texte clair et sans équivoque qui appelle à l'union en religion. Ces nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être unis en religion, de ne pas faire de notre religion un sujet de division et de nous diviser en sectes. Les adeptes de la division aujourd'hui, ils n'ont pas prêté attention à ces versets. Tous ces versets sur lesquels nos grands savants ont basé leurs recommandations et leurs orientations. Mais ceux-là, ils n'ont pas prêté attention à ces recommandations. Ils n'ont pas tenu compte des recommandations des savants. Et ce, car elles ne correspondaient pas à leur passion. Et ceci est exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans ce verset. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'épreuve leur fut venue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à la communauté d'emprunter ce chemin qui fait partie des chemins de la jahiliya. Il nous a ordonné de nous accrocher à la religion. Cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur laquelle l'ont suivi ses compagnons après lui radiyallahu ta'ala anhum. C'est sur cette religion qu'il est obligatoire que la communauté s'unisse, et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Et si nous divergeons, car il est possible que les gens divergent, la divergence fait partie de la nature de l'homme. Mais si nous divergeons au sujet d'une chose, quelle qu'elle soit, que devons-nous faire? Nous renvoyons cette chose au livre et à la sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. « وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, et à son messager, c'est-à-dire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a renvoyé à son livre et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous divergeons et que l'on ne sait pas qui de nous est sur la vérité et qui de nous est sur le faux, alors nous revenons au livre et à la sunna. Celui dont la voie qu'il a empruntée est appuyée par les textes du Coran et la sunna. Alors ceci est la vérité. Il est obligatoire pour nous de l'accepter. Et celui dont les textes du Coran et de la sunna démontrent qu'il n'est pas sur la vérité, mais qu'il s'est opposé au droit chemin, alors il est obligatoire pour nous de le délaisser. Car notre objectif à tous, ce doit être
d'atteindre la vérité. Notre objectif, cela ne doit pas être de faire triompher notre avis, de forcément avoir raison. Mais notre objectif, cela doit être d'atteindre la vérité afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. En s'éloignant de toute forme de sectarisme, en s'éloignant de toute forme de fanatisme ou de sanctification des chouyours. Ceci ne fait pas partie des choses qui conviennent aux musulmans. Mais le croyant, ce qu'il doit priser, c'est le fait d'atteindre la vérité. Et là où il trouve la vérité, il l'accepte et il s'y accroche. Allah subhanahu wa ta'ala donc, de par sa miséricorde, il nous a donné la solution de mettre fin à toutes nos discordes. Il nous a indiqué de revenir à ce qui est dans son livre et ce qui est dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَنَهَانَا عَنِ التَّفَرُّخِ فِي الدُّنْيَا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit la division, même dans les affaires mondaines. بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez bien guidés. Donc les gens de la période pré-islamique, les gens de la Jahiliya, ils étaient divisés dans leur religion, mais ils étaient aussi divisés dans leurs affaires mondaines. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux musulmans de se cramponner à son câble. Le câble d'Allah, comme il est venu dans les livres de tafsir, c'est sa religion et son livre. Cramponnez-vous tous ensemble à la religion d'Allah. Cramponnez-vous tous ensemble au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous cramponner à sa religion et à son livre, et il nous a interdit de nous diviser, comme on le voit dans ce verset. Et certes, il y a dans l'union des musulmans sur leur religion, ce qui leur permet de réformer leur religion et de réformer leurs affaires mondaines. En effet, il y a de nombreux bienfaits dans l'union des musulmans, à l'exemple de l'entraide, dans le bien et la piété, et autres parmi les affaires religieuses et mondaines. Et inversement, il y a dans la division un grand mal pour les musulmans. Et il suffit comme mal que la division, elle brise les liens de fraternité qu'il y a entre les musulmans. Une fois divisés, tu verras chacun d'entre eux faire des efforts pour atteindre ce que son âme désire, même s'il y a en cela un méfait pour les musulmans. Et telle était la situation des gens de la Jahiliya. Ils étaient divisés dans leur religion et divisés dans leurs affaires mondaines. Rien ne les réunissait. Chaque tribu, elle se dirigeait elle-même. Et chaque tribu considérait comme licite le sang et les biens des autres tribus. Ils étaient sans cesse en train de se combattre, en train de s'entretuer. Telle était la situation des Arabes avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient dans la peur, il y avait des guerres continues entre eux, ils ne trouvaient pas la paix. À l'exemple d'Al-Aws et d'Al-Khazraj, les deux tribus arabes qui vivaient à Médine. À la base, ces deux tribus, elles sont issues d'une seule et même tribu. Toutefois, de longues guerres ont eu lieu entre eux, entre Al-Aws et Al-Khazraj. Des guerres qui ont duré plus d'un siècle. Durant plus de 100 ans, ils se combattaient les uns les autres. Et ces guerres, elles étaient attisées par les juifs. Ils alimentaient les conflits entre ces deux tribus arabes à Médine. Puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni Al-Aws Al-Khazraj sur la religion de l'islam et il a fait d'eux des frères. Et les guerres ont pris fin. Ils sont devenus comme un seul corps avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle dans ce verset que l'on vient de lire. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni leurs cœurs par la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réconciliés. Et il en est de même en ce qui nous concerne. Il est donc indispensable que Que l'on soit conscient de ce bienfait et que l'on fasse tout ce qui est en notre possible afin de préserver cette fraternité. On doit se rappeler ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce comme fraternité et union sur cette religion. Malgré nos différentes origines, nos différentes nationalités, nos différentes langues et ainsi de suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a unis par la religion de l'islam. On doit donc faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qui est un bienfait immense. Et entre dans la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala le fait de préserver ce bienfait. Et de prendre garde à toute personne qui voudrait nous priver de ce bienfait en nous divisant et en faisant régner la divergence au sein des musulmans. Donc l'union, c'est un des fondements importants de notre religion. Et il n'est donc pas étonnant si vous voyez nos savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, mettre en garde contre telle ou telle personne, même s'il fait partie des prédicateurs les plus éminents dans son pays, même s'il fait partie des gens qui étaient affiliés à la science ou à la prédication, il n'est pas étonnant de voir nos savants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, mettre en garde contre ces personnes, si ces personnes causent la division des musulmans. Et ce, car comme on l'a dit, l'union des musulmans, cela fait partie des bases fondamentales de notre religion. Avant de passer au troisième point, il reste une question très importante à traiter. Il y a certaines personnes qui accusent les gens de la sunna de diviser les musulmans. Et ce lorsqu'ils voient que les gens de la sunna mettent en garde contre les groupes égarés parmi les gens de l'innovation et les gens des passions. À l'exemple, des soufis, des sha'ira, des khawarij, ou de ceux qu'on appelle aujourd'hui les frères musulmans, ou encore le groupe des tablir, ou le groupe des haddadiyya, et ainsi de suite, parmi les différents groupes égarés contre lesquels nos savants nous ont mis en garde. Certaines personnes disent, comment pouvez-vous vous permettre d'appeler à l'union alors que vous mettez en garde contre un tel et un tel, et contre tel ou tel groupe, ce qui mène à la division des musulmans? La réponse, elle est très simple. C'est que les gens de la sunna, lorsqu'ils appellent à l'union, ils appellent à l'union des cœurs sur la croyance et la religion authentique. Comme on l'a dit, l'union, elle doit être sur quoi? Elle doit être sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le livre d'Allah, sur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, c'est-à-dire accrochez-vous tous ensemble à la religion d'Allah, accrochez-vous tous ensemble au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de notre communauté. Il ne suffit pas d'appeler à l'union, mais cette union, elle doit être sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle utilité trouve-t-on à unir des personnes s'il y en a parmi eux qui croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en tout lieu? Un autre qui ne croit pas au châtiment de la tombe. Un troisième qui recherche la bénédiction auprès des tombes et qui invoque les morts. Et un quatrième qui rend licite le sang des musulmans et les taxes de mécréance. Et ainsi de suite, parmi les différents égarements qui sont malheureusement répandus aujourd'hui au sein des personnes affiliées à l'islam. Quelle union y a-t-il en réunissant toutes ces personnes? Ceci n'est pas une union, mais c'est en réalité la division qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Donc les gens de la sunna, ils mettent en garde contre ces différents groupes, car ce sont eux en réalité qui ont émietté la religion et se sont divisés en sectes en instaurant dans la religion ce qui n'en fait pas partie. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que les divergences, elles sont de plusieurs sortes. La première catégorie de divergence, c'est la divergence dans la croyance. Et cette divergence est blâmable et elle est interdite. Car la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est qu'une. Et il n'y a pas de place au sujet de la croyance pour les opinions et les efforts de réflexion personnelle. Nous devons tous nous accrocher à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ce dont il nous a informé dans son livre, ainsi que dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et tout cela, nous devons le comprendre selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, et à leur tête, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Ce qui est confirmé avec une preuve, nous y croyons et nous le mettons en pratique. Et ce qui n'est pas confirmé par une preuve, nous le délaissons. Donc à partir de là, si une personne vient et souhaite instaurer dans la religion une chose qui ne fait pas partie de celle-ci, alors il devient obligatoire de mettre en garde contre cette personne, et ce afin qu'elle est musulmane soit à l'abri de son mal. Le deuxième type de divergence, c'est la divergence au sujet des questions dans lesquelles l'effort de réflexion est admis. Comme, par exemple, certaines questions de fiqh, certaines questions de jurisprudence, dans lesquelles il n'y a pas unanimité entre les savants. Donc au sujet de ces questions, il est permis aux savants de faire des efforts de réflexion. Et forcément, étant donné que les compréhensions des gens divergent, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné à toute personne la même compréhension et la même faculté de déduction, ceci conduit à certaines divergences, qui sont en réalité des divergences de déduction. Ce ne sont pas des divergences au sujet de la croyance, mais ce sont des divergences sur des questions subsidiaires au sujet desquelles l'effort d'interprétation est admis. Et cette divergence, elle se divise elle-même en deux catégories. La première catégorie, c'est celle au sujet de laquelle la preuve est avec un des deux groupes divergents. Donc dans celle-ci, il est obligatoire pour nous de suivre la preuve et de délaisser tout autre avis qui n'est pas basé sur une preuve. Les avis des savants, ils sont donc comparés aux preuves. Celui qui est appuyé par les preuves, il est obligatoire de l'accepter, et celui qui s'oppose aux preuves, il est obligatoire de le délaisser. Et cette personne qui a fait un effort de réflexion, s'il n'a pas atteint la vérité, alors il est obligatoire pour lui d'accepter la vérité et de revenir à la parole juste une fois qu'il a connaissance de la preuve. Et il n'est pas permis pour lui de persister sur un effort de réflexion erroné. Et de la même manière, il n'est pas permis pour nous de le suivre sur un effort de réflexion erroné. Et ceci, c'est ce que l'ensemble des savants et des grands imams ont enjoint à la communauté. À commencer par l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Le premier des quatre grands imams, il disait, rahimahullah, si le hadith vient du messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors nous l'acceptons sans hésitation. Et si le hadith nous vient des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, alors nous l'acceptons sans hésitation. L'imam Malik, rahimahullah, il disait sa parole bien célèbre, de toute personne nous prenons ou rejetons, sauf celui qui est dans cette tombe, et il visait par cela le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait aussi, rien ne pourra réformer les dernières générations de cette communauté, si ce n'est ce qui a réformé les premières générations. Et qu'est-ce qui a réformé les premières générations? C'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit cette parole bien connue de lui, « Les musulmans sont unanimes au sujet du fait que celui à qui est apparue la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas permis pour lui de la délaisser pour la parole de quiconque, qui qu'il soit. » Il disait, rahimahullah, « Si ma parole s'oppose à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors jetez ma parole contre le mur. » Il disait également, rahimahullah ta'ala, « Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab, c'est la vie que j'adopterai. » Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il disait également, « Je suis surpris de gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, puis qui ensuite se dirigent vers la vie de Sofiane. » Donc Sofiane, un des imams, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. L'imam Ahmed, il nous dit, « Je suis surpris de gens qui ont connaissance de la chaîne de transmission et de son authenticité. » C'est-à-dire, ils connaissent la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils prennent la vie de Sofiane. Ensuite, il dit, rahimahullah, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Que prennent donc garde ceux qui s'opposent à son commandement, que ne les atteigne une fitna ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Il dit ensuite, rahimahullah, « Sais-tu ce qu'est la fitna ?» La fitna, c'est le shirk, c'est le polythéisme. Il se peut que s'il rejette une partie des paroles du messager, sallallahu alayhi wa sallam, entrera alors dans son cœur une forme de déviance et il périra. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Voyez donc ces paroles des quatre grands imams de la communauté, qui faisaient partie des imams qui faisaient des efforts de réflexion sur ces questions. Toutefois, ils n'ont pas prétendu à l'infaillibilité, mais ils ont enjoint de prendre de leurs paroles seulement ce qui est conforme aux preuves. À partir de là, on voit l'erreur de certaines personnes qui veulent imposer aux gens le fait de suivre un madhhab, comme certains essayent de le faire en France en voulant imposer le madhhab al-Maliki, le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. ce qui est obligatoire pour les musulmans, même s'ils ont appris la science auprès d'un cheikh qui leur a enseigné le fiqh selon un madhhab particulier, il est obligatoire de suivre les preuves. Celui qui suit le madhhab de l'imam Malik, s'il voit que sur une question, le madhhab de l'imam Ahmed est plus authentique, alors il le suit. Celui qui suit le madhhab de l'imam Ahmed, s'il voit que dans une autre question, le madhhab de l'imam Malik est plus conforme aux preuves, alors il le suit. Et notre objectif à tous, cela doit être de revenir aux preuves. Les preuves du Coran et de la Sunna, et non les paroles d'un tel ou d'un tel, et ce, sans se fanatiser pour les imams. Ceci est donc la voix des gens de la Sunna, qui est le fait de ne pas se fanatiser sur les différents avis des différentes écoles, et de n'accepter, parmi les avis, que ce qui est conforme aux preuves. Reste un point important. Que doit faire celui qui ne connaît pas la preuve? On a dit que la personne doit regarder les preuves. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas un niveau de science suffisant et qui n'ont pas connaissance des différentes preuves. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'alamun » Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Et si tu interroges le savant et que tu mets en pratique la réponse que le savant t'a donnée, alors dans ce cas-là, tu t'es affranchi de ton devoir qui était d'interroger les gens de science. La deuxième catégorie de divergence, dans celle dans laquelle l'effort d'interprétation est toléré, c'est celle dans laquelle il est probable que les différents avis soient justes et que la preuve ne penche pour aucun des avis. Donc c'est au sujet de ces questions que les savants ont dit « Il n'y a pas de réprimande au sujet des questions dans lesquelles l'effort de réflexion est admis. » À partir du moment où la preuve ne permet pas de trancher distinctement entre les avis. Dans ce cas-là, il n'y a pas de blâme. À partir du moment où la personne, elle suit un avis par conviction, et non pas par passion, mais qu'elle fait l'effort de rechercher la vérité. Alors dans ce cas-là, on ne doit pas la blâmer. À titre d'exemple, en ce qui concerne la position des mains dans la prière, après s'être relevé de l'inclinaison. Certains savants disent qu'on doit les remettre sur la poitrine, et d'autres savants disent qu'on doit les laisser le long du corps. Et ceci fait partie des questions au sujet desquelles l'effort de réflexion est admis et au sujet desquelles il n'y a pas de preuve explicite et authentique permettant de dire que l'un des avis est la vérité et que l'autre est totalement faux. Donc à partir de là, la personne, elle suit ce qui lui paraît être plus proche de la vérité et ces questions ne doivent pas être une source de divergence et d'animosité entre les musulmans. Ceci était donc une petite parenthèse en ce qui concerne les divergences et le comportement à avoir face à celles-ci. Ce sujet mériterait d'être plus développé, mais on va se contenter ici de cette petite parenthèse. On va passer maintenant à la troisième question que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée. Il a dit rahimahullah, Al-mas'alatu thalitha, anna mukhalafata wali al-amr, wa adama l'inqiyadi lah, fadila, wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun, wa mahana. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. Le troisième précepte, parmi les préceptes pré-islamiques que la religion de l'islam a aboli, qu'il considérait le fait de s'opposer aux gouverneurs et de ne pas se soumettre à eux comme un acte méritoire. Et il considérait l'écoute et l'obéissance comme un avilissement et une humiliation. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à eux et a ordonné l'écoute et l'obéissance aux gouverneurs, ainsi que le fait de leur porter le conseil, et il a été très strict sur cela, et il n'a cessé de répéter cet ordre. Ceci fait donc partie des préceptes de la jahiliya. Ils ne se soumettaient pas à leurs gouverneurs, et ils considéraient cela comme une humiliation. Et ils considéraient le fait de désobéir au gouverneur comme un acte méritoire. Alors l'islam est venu abolir cela et a ordonné l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman pour ce que cela comporte comme nombreux bienfaits pour les gens, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum. » Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué que cette obéissance, elle ne devait avoir lieu que dans le convenable, et qu'il n'est pas permis de leur obéir dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obéissance au gouverneur dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance n'est que dans le convenable. Ainsi sont les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc obligatoire pour les musulmans d'obéir au gouverneur musulman tant qu'ils n'ordonnent pas de péché. Et s'ils ordonnent un péché, alors dans ce cas-là, on ne leur obéit pas seulement ce qui concerne ce péché. Mais leur obéissance, elle reste obligatoire en ce qui concerne les autres commandements à partir du moment où ils restent musulmans. Et il y a dans l'obéissance au gouverneur de nombreux bienfaits. Parmi ces bienfaits, le fait qu'obéir au gouverneur permet d'unir les musulmans. Également, le fait d'obéir au gouverneur, cela permet de préserver le sang des musulmans. Cela permet de préserver la sécurité. Et cela permet de préserver les droits de chacun, ainsi que d'autres nombreux bienfaits que les gens de science ont mentionnés et dont on peut témoigner. Et ce, même si le gouverneur n'est pas sur la droiture dans sa religion. Même si c'est un pervers, à partir du moment où il est musulman, alors il est obligé, pour les musulmans, de lui obéir. Et sa perversion, elle est contre lui-même, et l'obéissance qui lui est donnée, elle est pour l'intérêt des musulmans. C'est pour cela qu'on rapporte qu'il a été dit à certains imams, un tel est un pervers, mais il est fort, et un tel est pieux, mais il est faible. Lequel des deux convient le mieux pour le commandement? Alors il répondit, le pervers faible, et ce car sa perversion est contre lui-même, et sa force profite aux musulmans. Quant au pieux, sa piété, elle ne profite qu'à lui-même, et sa faiblesse, elle nuira aux musulmans. Vous voyez la compréhension des savants, rahimahumallah ta'ala. Ils voient large, ils pensent à l'intérêt de la communauté. Donc le gouverneur, on lui doit écoute et obéissance, même si c'est un pervers. Même s'il est injuste, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute et obéis, même s'il prend tes biens et te frappe ton dos. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et ce car il y a dans l'obéissance au gouverneur un intérêt immense pour la communauté musulmane. Et il te suffit de regarder la situation des peuples qui se sont révoltés et qui sont sortis contre leur gouverneur. Quelle est leur situation aujourd'hui? Le simple fait d'observer leur situation te permet de comprendre que tout le bien se trouve dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous. Et entre dans cela l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman. Donc cette question, elle fait partie des questions au sujet desquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya. Et le fait de ne pas se soumettre au gouverneur, de ne pas obéir au gouverneur, de se révolter contre eux, tout ceci, cela fait partie des préceptes de la jahiliya. Et ceci est encore présent aujourd'hui. Ce précepte pré-islamique est encore présent aujourd'hui chez certains parmi les musulmans. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui des gens qui considèrent le fait d'obéir au gouverneur comme une humiliation. Ils vont même jusqu'à rabaisser les gens de science qui appellent les gens à l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Et ceci fait partie des préceptes pré-islamiques. Ils se sont assimilés en cela aux gens de la jahiliya. Il est donc obligatoire pour nous de prêter attention à cela et de nous écarter de cette caractéristique blâmable qui fait partie des caractéristiques de la jahiliya. Et entre dans cela le fait de mentionner les défauts des gouverneurs musulmans ou de les dénigrer en public comme le font aujourd'hui nombre de personnes à travers les différents médias comme les réseaux sociaux ou autres. Il est obligatoire pour nous de délaisser cela, car cela conduit à un grand mal pour la communauté. Mais ce qu'il nous convient de faire, c'est d'invoquer en bien pour les gouverneurs, de demander la réforme pour eux, de demander la piété pour eux, car il y a en leur piété et leur réforme un grand bien pour la communauté musulmane. On rapporte d'Al-Fudayl, rahimahullah ta'ala, qu'il disait, « Si je savais qu'une de mes invocations était exaucée, alors je l'aurais faite pour les gouverneurs. » Puis il a dit, rahimahullah, « Et ce, car il y a dans la piété du gouverneur la sécurité pour les serviteurs et pour les contrées. » Telle était la compréhension de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Il faut donc prendre garde à cela et prendre garde à ne pas être atteint par cette caractéristique qui fait partie des préceptes de la jahiliya. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit,
وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.
Il dit à ces trois préceptes, c'est-à-dire les trois préceptes que l'on a vus jusqu'à maintenant, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant les vertueux, la division dans la religion et le fait de ne pas obéir au gouverneur. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis dans un hadith authentique lorsqu'il a dit: Allah agrée de vous trois choses, que vous l'adoriez sans ne lui donner aucun associé. Donc ceci réfute le premier précepte que l'on a vu. وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne soyez pas divisés. Ceci est le deuxième précepte. Et que vous conseillez celui à qui Allah a donné le commandement parmi vous. Et ceci est le troisième précepte. Donc on voit que ces trois préceptes, ils font partie des préceptes les plus importants au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya. Ensuite il dit, rahimahullah,
وَلَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فِي دِينِ النَّاسِ وَدُنْيَاهُمْ إِلَّا بِسَبَبِ الْإِخْلَالِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ أُبَعْضِهَا. Il dit, il n'y a aucun manquement qui a lieu dans la religion des gens ou dans leurs affaires mondaines si ce n'est à cause de la négligence de ces trois points ou certains d'entre eux. Quels sont ces trois points? L'association à Allah subhanahu wa ta'ala, la division dans la religion et le fait de se révolter contre les gouverneurs des musulmans. Nous devons donc faire des efforts afin de nous éloigner de ces trois préceptes qui font partie des préceptes les plus graves de la période de la jahiliya, de la période pré-islamique au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux gens de la jahiliya et que l'islam est venu abolir, en ordonnant le culte sincère voué à Allah subhanahu wa ta'ala, l'union sur la religion et l'interdiction de se diviser dans celle-ci, et l'écoute et l'obéissance au gouverneur des musulmans. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la lecture et de l'explication de ce livre. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.